flasque. Et la fume. Et la fume. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission de cinéma amateur, libre de tout dire à défaut de tout voir. Sans jargon mais jamais sans bourbon, ces détracteurs qui la surnomment la frasque et l'enfume se réveillent au matin avec le casque et l'enclume. Au sommaire de l'émission, les films Les Châteaux de Sable d'Olivier Jahan, Cake. Ça commence déjà bien. Gros niveau là, au niveau de Michel Grosse. Cake de Daniel Barnes et Taxi Téhéran de Jafar Panahi. Pour nous accompagner ce soir, quatre chroniqueurs qui vont nous parler avec bonne humeur d'une sélection pas toujours très joyeuse. Elle nous revient d'une longue tournée sur l'inceste au cinéma, c'est Diane La Tendresse.
Bien revenue.
Du courrier de Chicoutimi. Elle dépense tout l'argent de la com en alcool. C'est Michel Grosse du journal satirique Awakiri. Reine de la plaidoirie, elle ose tous les jeux de mots, même les plus périlleux. C'est Maria Thury du magazine Télévoisir. Et enfin, il s'est levé de son parterre de fleurs de la place de Clichy pour venir vous dispenser son amour des films et des filles. C'est Stéphane Couillard. Nous terminerons l'émission avec la rubrique coup de cœur, coup de gueule, mais tout de suite, c'est la rubrique Poto.
Ouais. Alors,
quelles rumeurs les plus folles envahissent le web? Qui a ouvert Oups, voici vos closers chez son coiffeur. Michel Gros. Ouais,
j'ai un gros potin. Et eh ben j'arrive
à dire bisexuel.
C'est vrai,
les
bisexuels, j'aime
pas déjà.
Eh ben ouais, je suis désolée.
Génial.
On va remettre en contexte Jared Leto ou pas? Je dis ça.
Jared Leto, attends, c'est le film avec
les drogués là.
Oui, voilà.
Ah, c'est,
et j'en ai un autre.
Non, c'est pas ça.
Les gros cinéphiles de...
avec la musique des violons là.
Requiem for a Dream.
Bien sûr.
Je suis la seule qui parle anglais.
Si, c'est aussi le drogué dans
Angela Kinza.
Angela Kinza.
Bisexuel. Je suis ravie. Moi-même, j'étais un petit peu bisexuelle.
Et moi, j'avais pas.
Je suis partie pendant 4 mois. Ça recommence de la même façon. On ne m'écoute pas.
Il revient, il fait la merde.
Mais c'est parce que vous n'êtes pas bisexuel.
Il fait son Kevin Spacey, il parle tout seul avec
ça. Ça. Qu'est-ce qu'il vous a pris?
C'est ton commun.
J'étais en train de dire
m'écoutez pas. Pas de soucis, j'étais amoureuse de Jean-Marc Barr.
Alors, qui est pareil, oui. Ça a duré très longtemps.
Et qui est Jean-Marc Barr?
Et est-ce qu'on peut parler un peu du baiser de Madonna à son danseur?
Ah non, Toy Boy.
Ah, dégoûtant.
Ah bah racontez, moi je suis pas au courant.
Ah bah le baiser de Madonna à son danseur, elle était en pleine.
D'abord, elle a chuté.
Plus récemment, il y a eu donc ce baiser au danseur, et alors il y a l'espèce. Bon, après les gens en ont fait un gif, c'est-à-dire qu'après le baiser, il s'essuierait un petit peu la bouche, quoi. Oh. Genre de dégoût.
Mauvaise haleine. C'est comme si elle avait eu un coup de mauvaise haleine, quoi. Mon Dieu.
Alors il aurait dit que c'était à cause du goût du rouge à lèvres.
Du gras. Oui, c'est ça.
En fait, il n'était pas d'accord, elle n'avait pas pris le Fisherman, et du coup.
Le diable, c'est bien Prado. Prado, j'ai dit Prado.
Au Canada, c'est Prado, c'est pas Prada.
C'est ça. Nous n'avons pas notre potin.
Vas-y, un autre potin.
Si, il y avait des trucs sur les rumeurs sur le deuxième épisode de Fifty Shades of Grey. J'ai un peu l'impression que c'est des trucs pour qu'on aille voir le film et qu'on s'intéresse à la question, genre machin, on va pas renouveler son contrat. Et en fait, on va le changer, on va mettre Cara Delevingne à la place de machin.
Ah, putain,
je pense que c'est que du. C'est que du buzz, je pense. Je pense qu'il se passe rien, que les deux ils ont déjà signé leur contrat ad vitam aeternam, mais que c'est juste pour faire
ils
du buzz.
Ils veulent pas filmer le deuxième parce qu'ils sont pas assez bien payés, ils sont payés $250,000 le premier film.
$200,000, ça c'est pas mal.
Sur la version DVD qui va sortir, il y a des scènes non censurées avec des poils de pubis.
Non.
Des poils de
pubis.
Oh là là, les Japonais prendront pas ça. Ouais.
Les Japonais, ils avec les paupières des yeux.
Oh tiens. Mais voyons donc, c'est un potin ça.
Il s'épile les sourcils. Hein.
Ouais.
Les cils.
Voyons donc.
Les cils.
Il s'épile les cils.
Ouais, non, je croyais qu'ils faisaient des coupes juste.
Tu niaises dessus.
Ils font pas que s'épiler la chatte.
Oh non. Et dernier potin, le Québec sera libre bientôt.
C'est pas un potin, c'est pas un potin.
C'est pas vrai. C'est de la rumeur.
C'est de la science-fiction.
En tout cas, moi je vous
Ouais, d'accord.
Ouais. Vive les Québec, les.
Ouais. Ouais,
très bien, très bien. Là, ce cinéma français, pour commencer, avec Michel Brousse qui s'étouffe. Avec Les Châteaux de Sable du réalisateur Olivier Jahan. C'est l'histoire d'Éléonore qui retourne en Bretagne dans la maison de son père récemment décédé. L'accompagne dans cette épreuve son ex-compagnon Samuel. Tous les deux vont passer quelques jours là-bas pour y vendre la maison. Un film sur le deuil, sur les souvenirs et sur le couple avec au casting Emma Decaune, Yannick Régnier, Jeanne Rosa, le meilleur rôle selon moi, l'agent immobilier.
Ah ouais, ouais.
Ou encore Alain Chamfort. Chers chroniqueurs, Les Châteaux de Sable vous ont-ils laissé, oui ou non, un souvenir impérissable? Michel Gross, votre avis?
Non, c'est pas grave, pour la première fois, c'est moi qui commence.
Ouais. J'avais la bouche pleine, quel dommage.
Finis ta petite
finie, J'aime pas parce qu'ils sont, soi-disant ratés, ils sont échoués, ils sont séparés, il y a une conclusion naze. Alors, je dévoile pas le final, je spoil rien du tout, mais c'est pourri. Pourtant, à la base du film, on avait une réflexion intéressante quand même. On avait la relation avec l'autre après une rupture. Qu'est-ce qu'on peut créer? Bah, finalement, pas grand-chose. En gros, c'est soit on baise, on a un gamin, soit on baise pas et on se parle plus. Ah bah putain, c'est super, super choix, super évolution de couple. Je sais pas, on peut se séparer et créer plein de possibles. Non, mais on peut créer plein de possibles. C'est convenu, c'est naze, le mec. Tu sens trop puer de la gueule, le mec se barbu là, un peu complètement.
Comme Madonna,
là,
pareil.
Ouais, comme Madonna. Non mais c'est vrai, c'est pareil. Moi j'ai bien aimé la petite performance d'Alain Chamfort. Moi j'ai bien aimé. Il disait des choses très simples sur la plage, mais ça m'a fait larmoyer. Il dit on a toujours le choix dans la vie. Et bah ouais, on n'a pas le choix de soit séparer, soit baiser. On a le choix aussi d'avoir des relations chouettes, tu vois, d'évoluer, machin. Et là j'ai détesté. Bon, ça m'a gonflé. Et spéciale dédicace pour justement cette petite Claire, l'agent immobilier. Qui à un moment, sans rien raconter non plus, mais dans la scène de la cheminée là où il fait justement un truc particulier, mais si à un moment il y a la voix off qui dit qu'elle se voit bien coucher avec cette fille et cet homme, machin. Et ben ça m'a fait penser à 3 on y va, et je me suis dit voilà, et
comme vous aviez adoré
ce film, je me suis dit bah oui, on peut continuer avec 4 on y va, et voilà. Donc non, j'ai pas, je trouve que c'est pas trop intéressant, clairement. Puis les photos là, cric tout le temps,
les photos
sur la plage, merde, j'ai envie de les gerber, les photos.
Elles sont moches, les photos.
Oh non, c'est chiant,
elles galèrent à exposer un peu, mais on comprend pourquoi quand même, non?
C'est
moche, cette photo,
c'est l'enfer.
C'est casse-cou,
moi ça m'a gonflé.
Bien attendre
à votre avis. Écoutez, le fil rouge peut-être de cette émission vous apparaîtra très clair. Nous sommes dans la fin de la jeunesse. Donc c'est un film qui traite de ça quand le jeune devient un vieux. Alors qu'est-ce qui déclenche ça? Ben, la mort évidemment de son parent, là en l'occurrence du père, qui signe un peu, oh là là mon Dieu, je ne suis plus Emma Decaune la jeune, je suis Emma Decaune vieillissante, et il va falloir que je fasse quelque chose de cette expérience, probablement il faut que je parle de mes histoires d'amour qui n'ont pas fructifié. Alors évidemment tout ça devait se passer en Bretagne, ce qui va très bien avec l'idée de passer de jeune à vieux, comme là, n'est-ce pas?
Comme la moule.
C'est quand même très clairement effectivement l'endroit où on se retire pour sa retraite. Voilà. Donc ça se passe à Kersalo, n'est-ce pas? Et on s'arrache ses premiers cheveux blancs à 26 ans, c'est une obligation quand tu vas à Kersalo. Voilà. Donc au début, mes premières observations se finissaient toujours par c'est lourd, le narrateur omniprésent, c'est lourd, les photos, c'est lourd, le côté Amélie Poulain, c'est lourd, le lien amour et mort, c'est très lourd, lui est un peu sexy, mais comme vous dites, un peu lourd, parfois aussi, Brassens, mon Dieu, c'est lourd, enfin, heureusement, il y a une bouffée d'air absolue, c'est clair.
Ah ouais, génial.
Ah ouais, voilà, quand même.
Qui est la seule à oser parler du deuil en chanson en qui est lumineuse. Il y a vraiment un moment très lumineux au sujet du deuil qui est porté par elle. C'est vraiment... c'est bouleversant. Elle est très forte. Elle est absolument authentique. En plus, elle n'en fait pas des masses. Elle est très vraie. Elle, pour le coup, c'est un personnage absolument pas écrit, tout à fait vrai, de célibataire. Donc, c'est à croire qu'effectivement, les histoires d'amour sont creuses à mourir. Alors... Il y a par exemple des phrases types du style « on devrait épouser seulement les gens avec qui on dort bien ». Ben oui, effectivement, si le mariage c'est dormir, effectivement c'est formidable. Mais enfin, vous avez Claire qui est une belle
psychologue de couple, une belle psychologue conjugale. Et malgré tout, bon, il y a une réflexion sur qu'est-ce qui nous fait avoir aussi le projet d'enfant. Les gens font ça pour se retenir, les enfants. Voilà, c'est ça un peu qu'on entend.
Mais pour se retenir de quoi?
De sombrer peut-être dans...
Vous êtes emmerdée pendant ce film. Non,
alors, je me suis emmerdée. À partir de là, du coup, j'ai plus rien à écrire. Si ce n'est que j'ai retenu cette idée-là, bon, faire des enfants, c'est peut-être reconnaître justement que soi-même on n'est plus un enfant et accepter de plus être l'enfant de ses parents. Donc pouvoir aussi accepter de vivre leur mort et de vieillissement. Alors je tenais juste à dire que le scénario a été coécrit par Diastem et moi j'avais une passion pour Diastem à l'époque de Jeune et Jolie et on y retrouve totalement son ton, totalement girly. Alors écoutez, c'est mal joué plus ou moins, c'est mal filmé, mais... Pour Diastem, moi je vous recommande quand même d'aller prendre un petit bluette nostalgique de Jeune et Jolie est devenue vieille. Voilà, c'est ça un peu.
Vieille et jolie.
Non, c'est vieille et jolie, mais vieille. Et c'est pas mal, tu vois, comme la vieille Jeune et Jolie.
Ouais, d'accord, très bien. Stéphane Couillard.
Bah, je suis assez content de... que Diane ait dit que le rôle de l'agent immobilier, la Claire, c'est ça, était celui qui était le moins écrit, parce que c'est ça en fait mon opinion du film, c'est que, et la voix off m'y a fait penser tout de suite, c'est que c'est un film, c'est plus littéraire que cinématographique.
Ah bah exactement.
Et en fait, il y a tout ça, c'est comme un roman qui serait mis en image, avec ces personnages qui nous parlent, qui se tournent vers nous, à un moment donné, qui s'arrêtent de jouer et qui parlent. Et donc, moi, j'ai été super arrêté par ce truc-là, ça m'a gonflé, à vrai dire, au début. Après, c'est un petit peu passé. Il y avait cet aspect extrêmement littéraire.
On s'est dit, on n'avait qu'à faire un livre. Et puis
exactement, mais ça se trouve, c'est un livre de Diastem, un album de photos, un roman photo. Un roman photo, ça aurait été bien. Un roman photo, ça aurait été très bien. Et au-delà de ça, même au début, les acteurs, je les voyais jouer. Je voyais la caméra dans le hors-champ qui les prenait quand Emma de Caunes ouvre les volets. De la maison, on a vraiment là, elle est pas du tout dans le rôle. Elle ouvre les volets de la maison parce qu'on lui a demandé d'ouvrir. Moi j'ai dit ça, j'ai roté.
Je trouve ça très sexy la manière dont vous l'avez dit.
C'est vrai que c'était sexy.
On voit la caméra.
Bon, enfin bref, de ce que je voulais dire, c'est juste ça. C'est que c'est un film qui est pas toujours très bon, qui est pas toujours très crédible, mais en gros c'est passé.
Oui, c'est ça.
Voilà. Moi j'ai bien aimé les gros seins des Madocones. Je le répéterai pas. Et.
Est-ce que t'as bien aimé les Madocones?
Et si, j'ai quand même une remarque importante à faire, c'est qu'on peut vraiment pas charger une voiture avec des planches de cette façon-là. C'est...
Mais tout à fait.
Crétin et criminel.
Mais c'est en Bretagne.
Et je ne vois pas comment.
Mais c'est complètement interdit.
Mais c'est
n'importe quoi. Même pas de permettre.
Donc c'est pas un film
véridique
ou véraliste. Véridique. C'est pas un film. C'est pas un film. C'est un livre mis en image.
Et voilà.
J'ai pas grand-chose à ajouter, mais j'ai beaucoup aimé le personnage de l'agent immobilier.
C'est vraiment génial.
Alors contrairement, moi je l'ai un peu prise quand même pour un clown un peu triste, parce qu'elle est à la fois très intelligente et nunuche, très gay et puis complètement larriée dans sa petite vie en Bretagne qui n'épaulera jamais.
Mince mais grosse. Jolie mais moche. Qui mange McDo, c'est insupportable. Tu manges juste McDo, là, elle est normale.
Non, mais elle pleure à ce moment-là.
Oui, ben alors moi aussi.
Tu
pleures pas quand tu manges McDo, toi.
Tu pleures quand tu fais caca quand tu manges McDo.
Ah bah merde. Désolée.
Donc voilà. Film beaucoup plus mauvais. Bon. Mais Champfort, très bien. Champfort.
Oui, il est beau.
Champfort, parfait. Champfort.
Ouais, lui dit t'as peur de tout, t'as peur du vent, t'as peur de machin. C'est joli ce qu'il dit.
Ouais, Champfort parfait derrière la fenêtre.
Vous aimez bien, vous n'aimez pas Michel.
Mais moi j'avais aimé Champfort.
Non, j'ai juste aimé Champfort.
Une belle relation égyptienne. On aurait envie d'un petit insert.
D'ailleurs,
il y a pas un petit insert.
On aurait envie derrière les rideaux qu'il y ait un petit insert.
C'est quoi? Maria, tu ris.
Ça va aller assez vite, je n'ai pas vu le film.
Oh non,
mais quelle honte.
Pourtant, j'avais préparé un certain nombre de blagues avec Alain Chanfort, vous imaginez bien. Mais
Alain Beaufort,
il se trouve que j'ai raté la première semaine. Après, je suis allée regarder dans quel cinéma ça passait. Ça passait dans deux cinémas, dont un, je vous invite à courir, parce qu'on a dit que ça n'a pas duré très longtemps, d'Enfer Rochereau, et un autre dans le 15e. Oh. En fait, ça ne passe nulle part.
C'est comme la hauteur des Côtes d'Armor.
Du coup, je me suis dit que j'avais pas raté le film du siècle.
Vérifier, c'est dire.
Vous n'êtes pas passé au-delà de la scène, non?
Deux salles.
Il semblerait qu'il y ait une grosse vague qui est effacée le château de sable.
Ouais.
C'est-à-dire
quelle
que
grosse vague sont...
la, je sais pas. La grosse vague qui chante fort.
Qui chante fort. Mon Dieu.
On enchaîne, je l'ai pas vu. Ouais, circuler, il y a rien à voir.
Bah, il n'y a plus rien à voir. Le tout de sable, à voir en DVD.
Avec j'arrête les taux. Avec j'arrête les taux.
Allez.
Sans modération.
Les taux de sable.
Pardon. Les taux de sable.
Allez, on sort du deuil et on entre dans la dépression.
Oui, tu passes
à travers. Avec le film Cake de Daniel Barnes.
Ouais, mais il est où
ton gris-gris?
Alors, Cake,
tu me le rends après. Hein.
On l'avait annoncé comme le grand retour de Jennifer Aniston, grimaçante, souffrante, le visage plein de cicatrices, un rôle typiquement à Oscar et pourtant il n'en fut rien. Cake, c'est l'histoire d'une femme dont on devine qu'elle a eu un grave accident, accro à l'alcool et aux antidouleurs, blessée et blessante, dont seule la femme de ménage supporte l'humeur. Jusqu'au jour où elle se prend d'une obsession pour le suicide d'une jeune femme de son groupe de parole, et se rapproche alors un peu plus de la vie. Un film sur la souffrance et la guérison qui m'a, pour ma part, assez irritée. Cher chroniqueur, avez-vous trouvé Cake complètement tarte ou vous en êtes-vous délecté, Maria Turi?
Bah, malgré le glaçage à la crème au beurre sur le visage de Jennifer, je trouvais qu'elle était quand même très convaincante. C'était un des points positifs du film. Voilà, je sais pas, je trouve qu'elle prend de la matière, la petite, et que... Je sais pas, ça marche bien quoi. Peut-être qu'il y a une sorte de mode en ce moment sur les à Hollywood, les actrices quoi, qui sont un petit peu en joue. Hein, la joue de meuf est à la mode. Mm-hmm. Je pense notamment à notre Jennifer Lawrence quand même, qui a un petit visage un peu poupon comme ça, une petite mode de la joue.
Charlize Theron aussi.
Oui, voilà, il y a un truc un peu avec la joue.
Ouais.
Bon, très bien. Je trouve que le sujet est assez original, faire un film sur, sur la dépression. Je trouve que c'était assez original. Et puis, bon, le dernier truc intéressant, après, bien sûr, on va tomber du côté moins, mais le dernier truc intéressant, c'était ce contraste. Non, j'ai trouvé entre une image très lumineuse et un propos très sombre. Il y a quelque chose qui est assez intéressant dans la façon dont c'est filmé. Alors, je sais, on va dire que c'est un peu Instagram, etc., filtré et tout. Mm-hmm. Mais j'ai bien aimé ce propos de raconter quelque chose de négatif avec cette lumière et tout ça. Mm-hmm. C'était assez intéressant.
Dans une ambiance gay.
Qu'est-ce que la noire, ça ?
Peut-être que ça aurait gagné à un peu plus de bizarrerie. Parce qu'au final, quand même, point négatif, moi j'ai quand même cru que j'avais regardé un épisode d'une série. Hein.
Pour moi, j'étais parce que c'est une Friends. Ouais.
Non, mais j'étais dans Weeds en fait. C'est une série, c'est Weeds. Pourquoi ? Parce qu'on a les personnages secondaires qui sont... qui sont un peu très décalés, très complexes, notamment la femme de ménage.
Ouais. J'ai trouvé que les personnages secondaires n'étaient pas du tout complexes.
Si, dans cette série,
volent les jouets.
La Marie de l'Est.
C'est ça, tu vois, ces personnages un peu machin. Voilà. Les ressorts comiques, qui sont, s'ils sont pas téléphonés, ils sont tapageurs. Le truc, le trip tout à Tijuana, quand même, c'est du wits tout craché. Le truc, est-ce qu'elle va passer la frontière, la drogue, l'excès, tout ça, c'est très série américaine. Et les fantômes, notamment, tu vois, le truc de la suicider, c'est du Ally McBeal ou c'est du Six Feet Under à gogo, quoi.
Oui.
J'avais l'impression de voir une série, en fait. Ça m'a un peu dérangé. Après, c'est quand même très stéréotypé, avocate, donc, qui vire son mec et qui est aux petits soins avec elle, qui a une super maison. Bon, ouais, je sais pas, c'est un peu lourdos, quoi. Elle est habillée comme un sac, quand même, il faut le dire, hein, bichette.
Bah, la main, elle peut pas mettre de jeans.
Attends, elle est en pleine dépression.
Et on peut quand même dire, je vais pas dévoiler, mais la fin, elle est catastrophique, quoi. C'est quand même vraiment catastrophique.
Bon, alors on a des...
C'est sans déflorer.
Ouais, c'est bien, c'est contraste.
C'est bien, c'est contraste.
C'est contraste, c'est un peu oui, non. Peut-être que, je sais pas si c'est son premier film, mais bon, il y a encore un peu de taf encore, parce que c'est pas... Ça pourrait être plus bizarre, je trouve. Plus bizarre.
Mais
plus
vous avez bien aimé quand même.
Je dirais pas que j'ai pas aimé, parce que ça se regarde bien. La fin, on se dit, oh mon Dieu, mais sinon, c'est quand même pas mal.
D'accord, c'est pas le couillard.
Bah, moi, je suis pas d'accord sur ce point. J'ai trouvé que la fin était émouvante et réussie. Il y a une espèce de rédemption après... Après 3 quarts, voire 4 cinquièmes de film extrêmement chiant.
J'espère que j'ai vous dire.
Non, Michel, vous avez un truc à dire. Bon, donc j'ai trouvé que la fin était plutôt réussie. Après, un film qui s'est révélé extrêmement chiant. D'ailleurs, à ce propos, moi j'étais... je sais plus à quelle séance je suis allé, mais j'ai jamais vu autant de gens partir avant la fin du film.
Oh merde, ouais,
c'est marrant ça.
Je pense que la moitié de la salle s'est vidée aux deux tiers du film. Ah, ouais. Donc on n'était pas beaucoup. On devait être 20. Il n'y a pas de scène de cul. Qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que vient faire ce jardinier?
C'est le seul moment où moi j'étais un petit peu enthousiaste.
Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas.
Mais c'est normal. Elle a ses besoins elle aussi.
Bon, en tout cas, on a ces personnages. On a ces personnages qui sont totalement murés. Il y a elle. Mais il faudrait parler de. Moi, je l'ai trouvé très beau. L'homme qui a perdu sa femme, suicidé. J'ai beaucoup aimé ce personnage.
C'est vrai ouais.
J'ai trouvé extrêmement bien parce qu'il l'attend, il sait qu'elle va venir. Il sait qu'elle va venir le faire chier. Et il l'attend, il lui ouvre la porte, il l'accueille.
Mais lui, il est quand même très jeune, très sympa.
Exactement.
Très monsieur parfait.
Très, ouais. Très monsieur parfait.
Très sexy, ouais.
Lui, c'est lourd.
On dirait un camionneur d'Ivry.
Attends, c'est une pub de l'américaine à la parole, mec.
C'est des fascistes qui n'aiment pas les roues.
Ce type est extraordinaire. Donc on a ces personnages murés dont on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Ils doivent desserrer le nœud qui les tient... qui les tient serrés. Ça, c'est pas drôle. Bon, Jennifer Aniston est vraiment ravagée dans le film. Assez repoussante. Et puis... deux remarques pour finir. Je trouve que quand on est riche, on peut vraiment se taper une super dépression.
C'est clair.
Il n'y a pas de problème.
Ah bah ça c'est clair.
Ça a été
marrant. J'ai plein d'endroits pour planquer ces.
Quitte à aller à Tijuana, s'acheter des Saint Christophe. Ouais. Et puis j'ai beaucoup aimé cette phrase qu'elle dit à un moment donné quand elle a rencontré son. Je crois que c'est elle quand elle rencontre son mari. Elle dit j'étais torché au rhum coca. Il me tenait les cheveux quand je gerbais.
Et il me frottait le dos.
Il me frottait le dos. Donc voilà, ça résume assez le film, je pense. Ça.
Ça t'a frotté le dos ?
Je pense qu'il faudrait, en fait, au lieu de sortir aux trois quarts du film, il faudrait rentrer à ce moment-là juste voir la fin.
Ah ouais, bien la tendresse.
Alors, pour rester sur cette idée des jeunes vieillissants, là, nous avons effectivement Jennifer Aniston comme devenue vieille.
Barbara.
Peut-être l'ayant toujours été, étant le sosie absolu de Barbara Streisand.
Vieille.
Voilà. Alors, c'est un film sur la nécessité de trouver. Quelqu'un à qui parler pour faire son deuil, ce qui est passionnant, n'est-ce pas, comme propos. Bon, alors, ça parle aussi de douleurs chroniques, donc ça parle aussi de traumatisme. Donc j'espère que tous ces mots vous donnent envie d'y aller, parce que moi, j'étais limite quand même, hein. Alors, peut-être la seule chose qui m'a intéressée, c'est que le personnage de Jennifer Aniston soit une misanthrope absolue que nous trouvons rarement chez un personnage féminin. C'est plutôt les hommes comme ça qui ont cette tendance à la misanthropie qu'elle assume totalement. Par exemple, elle fréquente un groupe de soutien dans lequel elle se montre absolument immonde. Moi, j'ai assez jubilé de ce moment où elle pourrit l'ambiance dans son groupe de soutien. Je tiens quand même d'ailleurs à faire une aparté sur l'importance des groupes de soutien. Tel que les Américains les mènent, puisque malheureusement en France vous n'avez pas encore découvert ce merveilleux outil qui fait qu'en s'identifiant à l'autre, on commence à s'interroger sur soi.
Quelle horreur.
Exactement.
Mais oui.
Alors, il y a un motif, moi, qui m'a bien intéressée, c'est que dans ce film, à chaque fois qu'elle s'endort, les hommes disparaissent. Enfin, le peu d'hommes qu'elle a un peu autour d'elle, puisque bon, quand même, bizarrement, malgré sa tronche toute boursouflée, elle arrive à intéresser sexuellement quelques hommes pendant le film, c'est qu'il suffit qu'elle s'endorme pour que les hommes disparaissent. Puis là, moi, je sais pas, ça m'a fait penser à des contes de fées comme ça où le sommeil est dangereux parce que voilà, ça fait fuir les hommes. Bon, il y a une identification entre deux femmes, la question du suicide, bien. Donc tout ça est absolument triste. En fait, il y a plein de récits qui commencent et qui se déploient pas. Ouais. Voilà. Il y a de belles choses, notamment cette très jolie actrice là, pour parler des seconds rôles là, qui.
Jennifer Lopez.
Non, pas du tout. Celle qui joue dans Dôme, la série Dôme. Mais moi aussi, finalement, je suis comme vous. J'ai beaucoup pensé aux séries. Là, il y a une belle jeune comédienne qui joue dans la série Dôme, qui arrive à la fin. Et voilà, ça aurait pu être une très jolie histoire si ça se déployait comme ça, où elle aurait pu retrouver au fond une fille comme ça d'adoption. Ouais. Mais ça ne se déploie pas. Ça en reste là. Puis au fait, elle se sort de sa pathologie un peu comme un cake qui s'effondre, quoi. Voilà, il n'y a pas tellement de construction, le scénario est assez beau. Bon, moi, je me suis profondément ennuyée.
Mais il y a un truc quand même dans ce que tu dis qui me touche.
Alors, sauf la fin, effectivement, moi, j'ai trouvé que la métaphore un peu lourde de revenir à la verticale, malgré tout. Mais ça doit être mon côté nord-américain, je suis quelqu'un de simple.
Mais côté nord-américain à spoiler les films, vous voulez dire?
Ah, oui, non, bah, alors, revenir à la verticale, on se pas trop ce que ça veut dire.
Personne n'ira le voir.
Oh non. Mais excusez-moi.
Non, mais il y a un truc qui me touche dans ce que tu dis, c'est.
Moi, je vous vois, moi.
Ah, c'est vrai.
Ouais. Ouais. Maria.
Alors, non, mais c'est l'idée que l'idée qu'elle soit comme ça, misanthrope.
Oui.
Mais en fait, c'est marrant parce que comme si parce qu'elle allait mal, ça justifie toutes les transgressions, et notamment de se faire voler,
d'acheter
des médicaments, de faire d'être shootée quand même parce que c'est un peu le truc. Ouais. On essaye un peu de nous mettre dans une sauce où finalement la transgression est normale. C'est ça que ça me fait penser.
Mais elle est normale pour une riche. Moi, je suis assez d'accord avec
même
vous.
Même quand je vais bien, moi, j'achète des médicaments. Hein.
Pour une riche à San Francisco, quoi, là, qui est dans une
Los Angeles.
Non, c'est sûr, c'est pas San Francisco.
Michel Grosi, puisqu'elle dit à la jeune qu'elle va
ouais. Moi, je trouve que ça lui va bien d'avoir quitté Brad.
Michel Gross, elle a pas vu.
Brad Pitt. Moi, je trouve que c'est un scénario facile, qui est lisse, qui est sans profondeur, ça manque de nuances, de subtilité. Il y a des cicatrices partout, il y a des cris à chaque fois qu'elle se lève. Oh, ouais.
C'est vrai qu'elle souffle,
stylo,
c'est un peu
chiant. Moment, la musique, elle est relou. Tu vois, c'est hyper.
Emma Chow comme musique.
Ah, très bien,
tout, c'est à relever.
Mais oui,
clandestino. Là, j'ai vomi.
Tijuana, clandestino, quoi, normal.
Non.
Ouais.
Voilà. Le truc qui m'a fait tenir, moi, c'est les révélations continuent pendant le film. À chaque fois, on apprend un petit peu qui elle a été, son passé, qu'elle a eu. Bref, on va pas tout dire.
Elle a eu quoi?
Mais voilà.
Elle a eu des trucs qui ont fait mal,
tu vois.
Mais lesquels?
Non, il est pénible.
Beaucoup sur la faute. Arrête. Mais
bien sûr. Tu me poses vraiment à la faute.
Moi, j'ai pas vu cette histoire.
Elle est un peu connasse, mais voilà, elle baisse parce qu'elle en a besoin. Elle est salope, mais pas trop. Bah, si, il
assez, et puis
en fait, il y a un bon fond qui se cache derrière cette mère exemplaire, et puis après, à la fin, elle va devenir blanche.
Non,
je suis pas. Et donc, d'ailleurs, j'attends. Pardon, Caroline Garçon, on s'attendait à un truc un peu, un peu sympa avec ses mains là.
Ouais, la muchacha.
La muchacha, maman, ça va dans la chambre d'hôtel. Moi, je pensais qu'elle allait se tripoter toutes les deux.
Oh non.
Vous avez bien aimé ou pas, Michel Gross?
Non, j'ai pas aimé, ça m'a gonflé. Bah, je préfère voir ça que Château de Sable.
Endormie, elle était saoule.
Ça lui va bien d'avoir quitté Brad Pitt.
Bah, parce qu'elle était. Elle joue très bien. Parce que j'étais d'accord avec Maria.
Non, elle joue bien quand même.
En fait, je trouve qu'elle fait une belle prestation, mais le film lui va pas. C'est pas assez profond. C'est pas très intéressant.
C'est pas assez bizarre.
Tu peux le regarder un dimanche soir.
Non, encore. Avec
c'est un peu lisse.
Ouais, c'est un peu lisse.
Après une journée de déconvenue amoureuse.
Il y a trop de films pour trop de niveaux.
Vous parlez de qui, Stéphane, exactement, quand vous parlez de déconvenue amoureuse?
Je sais pas, je pensais à demain.
Ouais.
Pas un gros nom.
Non.
Si vous
ni les Châteaux de Sam, ni Cake. D'ailleurs, c'est un peu la même chose.
Oui, tout à fait, c'est ça, oui.
Si vous êtes vieillissant comme moi, vous pouvez faire les deux.
À la place au cinéma iranien à présent. Avec le film Taxi Téhéran de Jafar Panahi. Interdit de tourner dans son pays et interdit de sortir du territoire iranien pour recevoir ses récompenses, le réalisateur a tourné un film clandestin à petit budget où il est à la fois réalisateur et acteur, puisque cela se déroule dans un taxi dont il est lui-même le chauffeur. Dans ce film qui se présente comme un documentaire, mais dont tous les personnages suivent un scénario, il évoque entre gravité et humour la censure, le rapport entre les hommes et les femmes, ou encore la culture en Iran. Un film que j'ai trouvé astucieux mais dont le propos me paraît un peu manichéen et qui ne semble destiné qu'aux pays occidentaux friands de défendre la liberté d'expression. Chers chroniqueurs, avez-vous aimé vous faire balader dans le taxi de Jafar Panahi? Diane La Tendresse.
Écoutez, au début, j'ai eu une sensation d'étouffement. Comme au début d'un voyage dans un pays vraiment très exotique, vraiment très très loin, où tu sais, tu te poses aux Philippines, puis tu te dis « Oh là là, qu'est-ce que je fais là ?» Ça va être difficile les premières heures, vite, il faut que je retourne en Europe. C'est-à-dire vraiment, il y a une sensation d'étrangeté qui est tout à fait désagréable, assez étrange. Donc le début du film, moi, m'a coûté un peu la chaleur, la transpiration, l'exiguïté de l'espace, la sensation d'être pressé, parce que moi, personnellement, en tout cas, je prends des taxis que quand je suis très pressée. Donc t'as l'impression comme ça de courir après le temps, c'est tout à fait désagréable. Ça m'a rappelé d'ailleurs mon voyage à Cuba, parce que j'aime bien parler de moi dans cette émission. Et donc ce voyage à Cuba, n'est-ce pas, c'était ma seule expérience de dictature, de vivre dans un pays où il y a une dictature.
Ouais. Cuba, est-ce vraiment une dictature?
Oh, tout à fait, c'est une dictature tropicale, mais c'est une vraie dictature, en tout cas à l'époque, là, c'était il y a 7-8 ans. Et en fait, les seules personnes avec qui j'arrivais à parler, c'était effectivement les chauffeurs de taxi. Donc moi, je trouve que c'est un personnage tout à fait intéressant.
C'est parce que vous êtes très jolie, Diane.
Oh, bah dis donc.
Alors, c'est vrai qu'il m'a proposé de se prostituer après le tour de Texas.
C'est vrai.
Ou alors, ça m'a rappelé certains voyages aussi à Miami où les chauffeurs de taxi haïtiens vous racontent la migration de ça. Donc, moi, je trouve qu'il y a un personnage vraiment très fort, le chauffeur de taxi, et que le cinéaste cloîtré chez lui joue à ça et parle de la question, effectivement, de l'exil à l'intérieur de son propre pays. C'est un truc qui m'a bien intéressée.
Astuce.
Alors, il y a effectivement les seules figures libres de ce film, ce sont donc le chauffeur de taxi, le livreur, le cinéaste, l'avocate, l'enfant, le voleur. Il y a comme ça quelques personnalités à travers la ville qui incarnent un peu la liberté au milieu de l'enfer
des mutations.
Ce sont tous les naïfs, tous les hors normes qui échappent aux mensonges politiques. Alors au début, voilà, je suis gênée comme ça par la lourdeur, par la politesse aussi que ces gens ont les uns avec les autres. Mmh. Je sais pas si vous avez trouvé ça. Alors on est très poli au Québec, là, mais c'est une autre forme de politesse extrêmement. Et puis ils se touchent aussi, donc il y a un truc aussi, le corps est pris dans
ils
ça.
Se touchent.
Oui, et on sent dans la lourdeur de cette politesse, la lourdeur d'une stratification sociale ancienne, d'une société très hiérarchisée avec des rapports de classe. Les salam alek de salut, on dit bonjour en français. On dit madame, on dit merci, utilise les mots français, donc il y a les restes d'une histoire oubliée.
Tu as trouvé que les deux petites vieilles étaient polies, elles n'arrêtaient pas de parler dans leur bar.
Il y a des formes de politesse évidentes.
Bon, et la fin vraie est absolument terrible, il y a quelque chose de. Voilà, quelque chose de noir, quelque chose d'absent. Voilà, il y a une absence.
Mais alors, quand même, on ne sait pas si à la fin, pour le coup, comme on était toujours entre.
C'est génial la fin.
Entre. Réalité et fiction, on ne sait pas si c'est la vérité.
Bien sûr que c'est du cinéma.
C'est
un mensonge vérité.
Moi, je ne suis pas sûr que le régime iranien soit si dur.
Mais arrêtez, là. C'est parce que depuis toutes ces dernières semaines, on nous parle de l'Iran comme d'étant la solution de la diplomatie avec le Moyen-Orient.
Je pense que c'est une démocratie.
Et justement, il vous raconte que là, qu'est-ce que la noirceur ? Voilà. C'est un film qui raconte très bien qu'est-ce que la noirceur. Voilà, avec des codes du cinéma, mais il y a le surréalisme, mais il y a la métaphore des poissons rouges dans la boca. Enfin, il y a très jolies choses.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Qui est le poisson rouge au fond ? Moi, c'est ce que j'ai fini par me demander dans ce film. C'est-à-dire, est-ce que le poisson rouge, c'est celui qui est enfermé effectivement dans un pays où les libertés sont minimes, ou est-ce que c'est celui qui regarde le film, qui est dans les codes, dans son ethnocentrisme ?
C'est celui pour qui le film est fait. Parce que c'est quand même un film qui s'adresse vraiment. Quand elle pose sa rose avec l'avocate et qu'elle dit.
Oui, c'est une adresse, évidemment.
C'est une adresse, mais c'est comme si ce film n'avait même pas été fait pour les gens d'Iran.
C'est pour nous, bien sûr. C'est pour expliquer ce qui se passe, là-bas.
Ouais, d'ailleurs, c'est assez réussi parce qu'il a eu un ours d'or à Berlin.
Ouais.
Donc c'est vraiment fait pour.
Et puis pour parler de poisson rouge, c'est un peu la mise en abîme, quand même, Diane. C'est un peu la vache qui rit parce qu'il y a le poisson dans son bocal qui est lui-même dans un taxi.
Oui.
Enfin, qui est quand même un truc avec des vitres, etc. Oui. Il y a quelque chose, une idée un peu d'enfermement, moi, j'ai trouvé dans ce film.
Moi, je l'ai ressenti dans la salle de cinéma. Ça, je me suis sentie aussi enfermée de mes propres clichés mentaux, tu vois, et de devoir aller au cinéma pour mieux comprendre la vie. Non, mais tu sais, c'est absurde. Il y a quelque chose d'absolument absurde, en fait. Et je me suis dit, mais où est la fenêtre ? Où est la porte qui s'ouvre ? Où est la liberté ?
Où est la poignée ?
Où s'arrête le faux monde, le vrai, tu vois ? Et ça, et puis voilà, c'est un film qui est court, à la différence des deux premiers. Et puis c'est le seul pour lequel j'ai envie de dire oui, quoi. Vraiment. Même si c'est toujours vieux-jeune, on est toujours dans cette ligne. Mais bon.
Michel Gross.
Ah, moi, je remercie Diane. Elle me fait toujours vachement plus aimer les films quand elle parle après.
Ouais, on devrait regarder Diane et pas les films.
Et quand Diane
fait
son sacrifice, du coup j'aime le film. Alors qu'il y a une heure, j'avais envie de buter quand même Jafar Panahi. Moi j'étais j'étais avec Bachar el-Assad et tous les mecs de
dictateur.
Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Bref, non, bien sûr, c'était. J'ai pas été prise par le film, même si c'était intéressant, même s'il y avait des. Voilà, tous ces petits personnages qui arrivent comme ça avec l'avocate, et tout, c'était chouette. J'ai été émue un moment par la rose comme ça, où elle s'adresse comme ça au public occidental, à ces gens qui sont libres et tout, c'est clair, c'était bien. Et je me sens mal en disant que oui, j'ai pas été prise par le film, oui, j'ai pas trop aimé le film. Bon, c'est un peu scandaleux de dire ça, c'est vrai que c'est
un peu, Michel.
Je me suis complètement endormie pendant 10 minutes. Non, mais j'avoue, c'est vrai.
C'est défensif à mon avis.
C'est la première. Peut-être, mais voilà, vous voyez, mais j'avoue,
ton côté démocratique qui s'est.
C'est surtout le côté festif d'hier.
Ça aussi, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, Stéphane. Vous n'y étiez pas, après tout. Non, mais je mais je, voilà, je, j'ai, non, non, je l'ai trouvé. Je me suis pas prise là-dedans. Après, je soutiens ces causes-là. Je trouve que, bah voilà, à un moment, il parle de cet épisode de torture avec pas de torture, la mais voix, on comprend que ça le marquera à vie, en fait, ce truc-là. Ouais. Et là, du coup,
là, bah, il a un peu une tête de bisounours, lui, quand même.
Ouais, il est très moche. Mais non, mais c'est pas
moche. Il est moche. Mais non, il est pas moche.
Non, il est pas moche, mais il a son sourire toujours un peu comme ça.
Mais en fait, parfois, il ne sourit pas et on dirait qu'il sourit.
Non, en fait, c'est comme si t'étais sur le tournage d'un film. Quoi.
Bah, par respect et par courage pour tout ce que ces mecs peuvent faire, si bien sûr, moi je mets oui, un petit label Michel, ça peut les aider.
Mais... certainement.
Un gros label Michel.
Non, mais un gros pas... tampon comme quand on achète du vin, on prend une médaille. Michel 2015, allez hop, vas-y, je vais faire.
Paris, yes. D'accord. Stéphane Couillard.
Je sais pas. J'ai pas eu le temps de réfléchir en fait à ce film parce qu'on l'a vu tout à l'heure.
Ouais. Avec Michel.
Avec Michel, avec Michel, qui dormait à côté de moi, donc j'étais un peu perturbé par le sommeil de Michel.
Qui ronflait.
Qui ronflait. Qui est insupportable. Qui est insupportable au cinéma, mais j'ai cru qu'on allait se faire assassiner par nos voisins.
Oh, ah ouais. C'est vrai.
Vous avez essayé, hein,
bah, Caroline. C'est une enfant.
Ouais, c'est une enfant. Ah ouais. C'est moi. Regardez, c'est moi à l'écran.
C'est beau les enfants.
Dieu merci, on est avec un.
C'est qui la dame ?
Dieu merci, on est avec un cinéphile, Sébastien Voyas.
Tout à fait.
Et je lui ai demandé son avis. Il m'a dit c'est pas mal, mais c'est un peu ennuyeux. Bon.
Très bien. Bon résumé. Très bien. On l'invitera
prochainement. Ça t'était clair.
Qu'est-ce que je pourrais dire ?
En fin bon. De
très franchement.
On aimera bien ça. Il y aura de la bonne punchline, je pense, avec.
Moi, je me suis demandé si c'était vraiment un film clandestin. Ou si c'était pas un film officiel.
C'est vrai qu'on peut parler de ça.
Qui jouait sur le fait d'être interdit. Je vois pas comment dans un pays aussi surveillé, il tourne dans son tacos sans qu'il y ait personne à un moment donné qui dise qu'il tourne dans son taxi. Les gardiens de la Révolution clairement sont partout, en voiture machin, truc pilule. Donc ça m'a semblé. En fait, j'ai eu cette idée à un moment donné. Ça m'a semblé assez bizarre. Il y a un personnage intéressant dans cette histoire, c'est la nièce. Et à qui il explique justement tout ce qu'est la censure, tout ce qu'est le régime, tout ce qu'est tout ce qu'il faut pas faire, tout ce qu'est le ouais la même à 10 ans. Audace et liberté pas voilée, mais quand même qui est quand même vachement cornaquée par les idées du régime. La maîtresse lui fait comprendre que il y a des choses qu'il faut pas faire et donc elle s'interroge sur ces trucs qu'il faut pas faire. En comprenant ensuite que ces trucs qu'il faut pas faire, et ce serait quand même pas mal de les faire parce que c'est ça la vie. Donc en fait c'est ça le vrai propos du film, c'est la relation avec elle et puis qui montre le régime. Mais j'ai trouvé que des fois c'était un peu trop explicatif sur le sur ce qu'est le régime un peu dictatorial.
C'est un peu le film à destination des étrangers.
C'est un film pour les autres parce qu'il
aurait pu essayer aussi de faire un film avec la base de la gamine qui dit alors on n'a pas le droit de faire ça, pas de faire ça quand la maîtresse lui explique, et essayer avec toutes ces contraintes
de faire un film subversif. Bon, enfin bref. Donc je me suis demandé si tout ça faisait vraiment un film. Et puis, vous connaissez mon esprit critique. Moi, je note quand même que là-bas, ils conduisent vraiment comme des pieds. C'est extrêmement dangereux. Ils écrasent les piétons, presque.
Exactement.
Ils rentrent dans les voitures qui sont sur les voies. Ils passent à gauche quand on voit. Alors là, franchement,
ça va.
Non mais c'est quand il y a des bretelles à gauche, quoi. Tu vois, c'est trop
fou. Deux choses qui sont interdites. On n'a pas le droit de téléphoner au volant et on met pas un enfant de moins de 10 ans devant.
Il se positionne n'importe comment.
De ce point de vue-là, c'est un film vraiment pas réaliste.
Et ça, c'est très étouffant d'ailleurs.
C'est surtout un film très subversif.
Ouais, extrêmement subversif. Je ne sais pas si nous, occidentaux, on pourra s'en inspirer.
Maria Thury.
Moi, je suis assez d'accord avec Diane, comme d'habitude. Non, mais il y a une idée d'enfermement, en fait, qui est un petit peu difficile. Et c'est vrai qu'on... Heureusement, la qualité du film nous fait oublier ça. C'est vrai qu'il y a un moment, on aimerait bien être comme Jennifer, on aimerait bien trouver la poignée, quoi, pour pouvoir sortir. Bon, sauf que non, en fait, on se prend très vite au jeu. Au jeu du faux taxi, et c'est vrai que c'est drôle ce personnage dès le début qui lui dit ah j'ai compris ton truc, ce personnage très réac du mec qui est une sorte de qui dit qu'il est voleur à la tire à la fin, c'est complètement bizarre. Ce personnage qui dit ah mais c'est pas une caméra, c'est un antivol effectivement, et c'est un petit peu un antivol ou une sorte de garantie à lui, et ça, c'est un peu sa raison d'être cette caméra parce que c'est la seule façon pour lui qu'il a d'exprimer son truc. Et j'ai bien aimé aussi les ranches, les rues, etc. Ça m'a fait penser à Ah, Wim Wenders, j'espère qu'on en parlera prochainement, mais à Lisbonne Story, qui est un super film sur Lisbonne où on se promène dans les rues. Et j'ai beaucoup aimé ça, le fait d'être en voiture dans un truc où finalement, nous, on n'aurait pas le droit d'être, un peu comme une sorte de sanctuaire, c'était interdite, on pourrait parcourir en voiture. J'ai bien aimé cette promenade un peu. Et puis, mine de rien, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un film très puissant. Effectivement, le discours de la nièce, ce rapport avec lui, qui est très, on voit qu'il y a une espèce, il y a une complicité, il y a de l'amour. Ouais. Et puis l'avocate, qui est quand même pour l'histoire une vraie avocate, hein, qui joue plus ou moins son rôle. Ah, une nana qui a été condamnée en 2011 à 11 ans de prison quand même.
Et qui n'a plus le droit d'exercer. Ouais.
Et qui a fait plusieurs grèves de la faim, etc. Et l'histoire qu'elle raconte dans le film de la, des personnes qui se sont fait emprisonner pour avoir voulu assister à des femmes qui se sont fait emprisonner pour avoir voulu assister à un match de volleyball. C'est une histoire vraie au moment où il tourne le film en fait. Il y en a une qui est vraiment incarcérée. Bon, il y a quand même une vision politique qui fait quand même que ce film-là est intéressant. Et puis, je trouve que le récit est bien mené, comme vous l'avez dit, Diane. Ces personnages un peu emblématiques de la société iranienne. Finalement, les petites vieilles qui sont dans leur croyance un peu débile, qu'il faut qu'elles arrivent avant midi à la source pour libérer leur poisson rouge et qu'elles en prennent deux
ça,
autres.
Ça, c'est une liberté incroyable. Voilà. Elles inventent leur propre croyance.
Elles inventent leur propre croyance, tout en insultant le mec d'incapable, etc. Puis cette servilité et en même temps cet ordre moral que chacun se construit lui-même, hein, parce que l'histoire du vol, je sais pas, il y a aussi un truc intéressant avec les technologies, la fille qui prend une vidéo avec son
très présent, l'iPad,
et puis l'autre avec son iPad. En fait, c'est comme si on était dans une sorte de milieu fermé où toutes les technologies sont là et puis ça peut pas sortir, comme si chacun avait son petit secret. Bon, j'ai vraiment trouvé il y avait des belles scènes et finalement je me suis pas du tout fait chier dans ce taxi. En fait, au bout d'un moment, malgré la voix un peu perçante de la petite nièce, les portières, la circulation, les gémissements, le sang.
Mais ce qui est très drôle, c'est qu'elle est voilée, certes, puis elle est en Iran, et c'est Gossip Girl quand même la fait. C'est ça qui est génial.
Mais ça change rien.
Ouais, mais c'est quand même une bonne famille de bourgeois.
Mais ça marche parce qu'il y a ce brassage. Je trouve que c'est très efficace.
C'est pas la nana qui amène son mari à l'hôpital.
Je pense que c'est le meilleur film à aller voir en ce moment.
Il y a aussi un nain comme dans Game of Thrones.
C'est pas les mêmes problèmes.
Mais les paysans, les seigneurs.
Mais la fille, c'est un peu Arya Stark, si on y réfléchit, la nièce.
Moi, je préfère Star Wars.
Parce que quand même, il y en a là-dedans.
Je préfère Friends.
Ouais, c'est vrai. Donc un très bon film quand même, non? C'est vrai, on peut dire que c'est oui quand même.
Des trois films, c'est quand même le plus intéressant. Mais on a cette sélection n'était pas.
Mais c'est parce que j'ai le festival de
Cannes bientôt. Mais oui, bien sûr.
Mais le festival commence dans quoi?
Ceci dit, nous Michel.
Un mois avant le festival, les mecs commencent à faire des articles sur.
Attendez, c'est très beau les sélections Eugénie Grandet, comme vous nous avez fait. La jeunesse vieillissante.
On a essayé de faire comme on pouvait avec ce qu'il y avait.
Oui, c'est
de
la jeunesse. À noter, avec Michel, on est allé à.
C'est compliqué. Voilà.
À l'UGC Ciné des Halles, ils ont quand même mis ça dans une salle de 450 places.
Parce qu'il y a eu un gros start.
Donc,
Parce qu'il y a une grosse presse aussi et tout ça. Quoi. On aime bien aussi aller voir les films comme ça, on se dit.
Moi je pense que j'irai revoir si un jour je suis avec quelqu'un que j'aime pas trop.
Au moins un film qui réussit à nous faire aller voir des moches. Ça c'est pas mal.
Ah non, il y a eu quelques.
C'est vrai qu'ils sont moches.
C'est bien de le dire parce que t'as souvent cette sensation là quand t'es à l'étranger. Tu sais, faut le dire, c'est pas une honte, c'est juste que.
En plus,
l'étrange est moche.
Ça ne veut plus en parler. C'est une société très contrastée où les gens s'explose en privé.
Les restes du Shah d'Iran.
En privé, en public, c'est extrêmement contrôlé. En privé, c'est pas du tout comme ça.
Je m'aurais bien compétent.
Bien. Cher chroniqueur, donc c'est le moment de pousser votre cri du cœur. Coup de cœur, coup de gueule, puissant, court et rapide. À vous de laisser nos auditeurs extatiques. On commence avec Stéphane Couillard.
Bon. Ouah, génial. Moi, je vais pas y aller par quatre chemins. Vous me laissez parler, s'il vous plaît, un peu. Mais c'est lassant, tous ces trucs.
C'est lassant.
Bon, il y a quelqu'un que j'ai trouvé vraiment génial, que j'adore, c'est Camille Moravia. Elle est exposée avec Yeon Wa-Hong, qui fait des sculptures au fil de fer. Alors, elle est exposée au théâtre Rue de Boeuf à Clichy.
Jusqu'au
1er mai, on s'en fout. C'est Camille Moravia. Désolé Camille. Yeonwa est très bien. Mais je voulais parler de Camille Moravia. Arabia, qui est exposée au Théâtre Rudebeuf à Clichy.
Avec...
c'est des photos, des textes, des objets. Je trouve ça, enfin, c'est intelligent, drôle, vif. Moi, ça m'a foutu un coup de pied au cul. Ça donne la pêche. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et comme elle le dit, il en faut. Parce
Kamel
que c'est, comme elle le dit, il en faut de l'amour, parce que c'est l'essence de tout le bordel. Mais vous êtes sous les filles, arrêtez, arrêtez de boire.
Donc, au jus d'ananas.
Ouais,
c'est un jeu, transsexuel.
Il faut le dire.
Ce soir, Stéphane Couillard est au jus d'ananas.
Pas demandé de faire court, alors je vais être extrêmement rapide et concis. Donc Camille Moravia, très bien. Et,
Camille
Moravia. Oh, voilà, bon, donc c'est à Clichy, c'est parfait.
Clichy, il faut sortir de Paris.
Oui, oui, oui. Et, mais justement, elle le dit. C'est un de ses textes. Elle met tu es prête à aller jusqu'où par amour.
David.
Pardon. En banlieue.
En banlieue.
Et donc on ira à Clichy.
Ça c'est génial.
Ouais,
ça,
j'adore.
C'est cool. J'arrive pas à le redire, mais j'aime bien.
Très bien. Merci Stéphane. Maria Thury.
Je vous en prie.
Alors moi je préférais passer
j'ai
en dernier.
J'ai droit de courir si les chroniques
non,
des autres.
Non, pourquoi? D'accord. Bon, madame choisit son truc.
On n'est pas sur France Culture.
On n'est pas sur France Culture. Là. Ok, Michel Gross.
Ouais, un coup de cœur.
Ah, ça suffit.
Il y a la BBC qui lance prochainement un docu-fiction sur GTA. Grand Theft Auto.
Oh yes.
Le jeu vidéo.
Michel
Menteuse.
Qu'on évolue, machin, au fur et à mesure. Qu'on a un gang de plus, qu'on devient un macro, qu'on gagne beaucoup d'argent et qu'on est le roi du monde, le roi de New York.
Prends un petit calisson, Michel.
Donc,
c'est le bruit du calisson que vous entendez, chers auditeurs.
Michel, je croyais que c'était un bruit sur l'autofictive.
Donc, c'est un docu-fiction qui durera 90 minutes. Et on connaît déjà un des acteurs principaux. Et devinez qui va jouer.
Non.
Jared Leto.
Jared Leto.
Non.
Jennifer Aniston.
Non, non, en mode gangster.
Juste une
dégueulasse. Je prends de la coke, je nique des pites et tout. Je nique des pites. Daniel Radcliffe. Harry Potter.
Hey,
potin,
tu m'y es, tu.
Voilà. Donc il va sortir sa baguette, mais pas très magique cette fois.
Oh non.
Sa grosse baguette.
Ah, le rôle d'un avocat véreux et lubrique.
Ouais, sa grosse baguette.
Génial.
Ouais.
Super content. J'attends avec impatience. Ça sort à peu près dans 3 semaines. Donc, voilà. Et je me souviens que j'étais fan de GTA, notamment de la petite Toon que vous connaissez.
Ah oui.
Qui est à
la
New York.
Toon est avocate chez GTA.
Dans GTA. Donc voilà.
La community manager chez GTA.
Sophie Salop, vous avez entendu la semaine dernière, joue aussi à GTA.
J'ai joué à longtemps à GTA 3 et j'adorais ça.
Tu te branlais.
Oh. Bah avec la tu peux pas, tu sais, dans les manettes,
faut trois mains,
si tu peux. Mais, vous étiez bisexuel à l'époque.
Franchement. Ouais.
Y a-t-il une corrélation entre GTA et bisexuel?
Je le suis toujours.
Donc docu-fiction sur GTA.
BBC, BBC, vous m'avez pas du tout écouté.
Si, bien sûr que si.
En même temps, je peux comprendre, j'ai pas trop.
Non, si, c'est super.
Si, c'est bien. Daniel Radcliffe, faut être très fort.
Alors, Harry Potter avec sa baguette magique.
Je ne pouvais pas ne pas vous parler de la dernière pièce de Wajdi Mouawad.
Ah, Wajdi
Mouawad. Qui est exilé au Québec. En plus, c'est complètement dans la lignée de tous ces films de vieux jeunes dont nous avons parlé depuis une heure. Et de l'exil également. Donc c'est une belle pièce menée par une comédienne omniprésente du début à la fin qui finit son show à la manière de Céline Dion, effectivement, sous vos applaudissements. Non, écoutez, comme d'habitude, c'est sur le langage, sur le trauma, sur le non-dit d'une génération à l'autre, sur l'envie de se cacher entre le matelas et le sommier. Et de ne pas se lever et d'oublier de se coucher et de rester là dans un entre-deux, entre rester la vie et le sommeil. Et écoutez, on n'est pas dans la puissance dramatique d'incendie, là. On est beaucoup plus dans la farce québécoise et c'est moi qui le dis. Donc, bon, prenez-le comme vous devez le prendre. Mais par exemple, il y a un très beau moment où l'héroïne qui est... une jeune vieillissante comme nous tous s'interroge sur qu'est-ce qui manque que les parents ne nous ont pas dit pour nous aider à vivre notre vie.
Le Père Noël.
Quand on a fini de grandir, quoi, ils ont fait la rôle d'éducation, mais qu'est-ce que c'est le mot qui manque, qui nous ont pas dit, qui nous aide à vivre maintenant,
n'est pas
une
peur.
Fois qu'on est grand. Et voilà, et peut-être cette pièce elle répond un peu à ça. Et rien pour ça, là, moi si j'étais vous.
Oh, tu nous as spoilé. Voilà. Hein.
Moi j'ai jamais trop aimé Moi je dis Wawad.
Moi je dis Wawad.
Moi je dis, va la voir.
J'ai jamais trop aimé Moi je dis Wawad.
En tout cas, le Liban ça a l'air vachement mieux que l'Iran.
Ah, ça c'est clair.
Ouais,
c'est clair.
Maria Thury. On attend que le bruit du calisson.
Quelle est sans cesse.
Non, vous l'avez piqué. Elle était tellement dure.
Moi, je voulais parler de après Taxi Téhéran, de
Taxi Driver,
de Paris Printemps,
de Bagdad Taco.
En fait, je reste un petit peu imbibé de Marina, la poète de la dernière fois. Et donc j'avais fait une petite texte sur le printemps en Paris. C'est un peu coup de cœur, coup de gueule.
Un coup de cœur, coup de gueule.
Voilà, une sorte de mix.
Très bien. Sur le printemps à Paris.
Est-ce qu'il y aurait pas un peu d'amour là-dedans?
Le printemps parisien, comme une sorte de.
Il y a un peu d'amour.
Il y a un peu d'amour. C'est bien ça.
Alors, lunettes noires et paille jaune tout autour, tournesol des terrasses, Helianthus débilis, les Parisiens jouent avec le feu. Réveil des jolies fleurs, un jour nouveau bas à ton poignet, une force éclatante soutient ton cou. Mais la place est chère. La quête de la pleine lumière dans les canyons haussmanniens, une seule solution, la plus grande surface possible. En un mot, le parc. Des marguerites sur la pelouse comme des grains de sucre sur ton pull. Éclartez-vous!
Éclartez-vous.
Il n'a jamais été aussi dur de faire sa place au soleil. Mais souvenez-vous, Caroline, chaque beau jour est une promesse. Qu'à cela ne tienne. Demain, la lumière rase gratis.
C'est vrai, c'est bien agréable en ce moment, les beaux jours.
On peut pas avoir des allergies.
Voilà, le casse-le-dire.
Non, mais je suis désolée, mais le printemps, c'est aussi allergique.
Et c'est aussi la grosse pollution avec les gens qui sont là comme ça en train de regarder sous leurs chaussures s'ils n'ont pas marché dans la merde. Mais non, c'est l'odeur en haut, ça vient d'en haut.
Hein. Particule fine. Tu sais ce que c'est qu'une particule fine?
Bah, c'est une grosse particule de merde. Hein,
c'est une qui pue. Je
comprends maintenant pourquoi on me dit toujours ça, mais c'est une particule fine.
Une croûte d'ozone.
Tous ces coups de cœur sont évidemment à retrouver en détail sur le SoundCloud de l'émission que vous pourrez également podcaster. Et c'est déjà l'heure de nous quitter.
Ah non!
Était présent avec nous ce soir, Michel Gros,
du journal satirique Awaki.
Ouais, bravo, Michel.
Maya Turi, du magazine Les Loisirs. Stéphane Couillard, du Martial Citizen Cul.
Bonsoir.
Et Diane Matandrelle du courrier de Chicoutimi. Quatre chroniqueurs qui ne se ridiculiseront pas en découpant leur carte de presse en direct pour la bonne raison.
Ils n'en ont pas.
Voilà. L'émission a été réalisée et animée par moi-même, Caroline Garçon.
Ouais.
Attendez, Caroline, parce que Michel, elle a une carte de passe par contre. Hein,
oh non, c'est moche.
Je n'avais même pas compris.
Je remercie Jean Chibre qui
dégueulasse.
Si vous l'aimez, n'hésitez pas à partager cette émission et à réagir.
Mais quelle vanité,
Facebook ou Twitter. N'oubliez pas qu'une journée idéale est une journée avec un bon bain de soleil, un bon film et un bon apéro pour en discuter.
Un bon ami.
Et rendez-vous en mai de l'autre côté des ponts pour un nouveau numéro de La Flasque et la Fume.
Ouais.
Bonsoir.
Pas de
routine. Je confirme, ça fait quand même
un festival de la bière.